Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons donc examiner les corrections aux sept églises qui, selon certains, devraient être le thème des examens de conscience que nous ferons pour quelqu'un qui est vraiment du Nouveau Testament. Donc, je commence par le message à Éphèse. Pour l'ange de l'église d'Éphèse, note, dit le Christ à Saint Jean, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite et qui circule au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ta peine et ton endurance. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et les as trouvés faux. Tu as aussi de l'endurance. Tu as supporté bien des choses en mon honneur sans te décourager. Mais je te reprocherai d'avoir relâché ton amour du début. Rappelle-toi donc d'où tu es déchu. Reviens-y et reprends tes premières œuvres. Sinon, je vais venir à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne te repens. Tu as pourtant ceci de bon, que tu détestes les façons d'agir des Nicolaïtes, comme je les déteste. À bon entendeur d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Au temps de Saint Jean, Éphèse était la ville la plus importante de l'Asie proconsulaire, province dans laquelle se trouvaient les sept églises mentionnées dans le texte. Saint Jean en était l'évêque. En quelque sorte, c'est le siège de cette Asie proconsulaire. Éphèse fut la première et la plus importante des églises fondées par Saint Paul. Celui qui envoie le message tient les sept étoiles dans sa droite et circule au milieu des sept chandeliers d'or. C'est donc en chef de l'église que le Christ parle. Il tient les sept étoiles dans sa main. Et en chef présent parmi nous, il circule. L'éloge adressé à l'Église est vibrant et appuyé. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as de l'endurance. Tu as supporté bien des choses en mon honneur sans te décourager. Mais la correction, je te reprocherai d'avoir relâché ton amour du début. Sinon, je vais venir à toi et te déplacerai ton chandelier si tu ne te repens. Familièrement, on pourrait traduire, je te mettrai au coin. Il dit à l'Église qu'il ne peut supporter les méchants. Cette Église rejette médisance, calomnie et mensonge. Elle aime la vérité dans les petites choses. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettre et les a trouvés faux. Toutes ces prétendues bonnes âmes qui, sous prétexte d'amélioration, mettent du désordre partout. Tu as aussi de l'endurance, tu as supporté bien des choses en mon honneur, l'église d'Éphèse s'acquitte consciencieusement de ses devoirs. Et pourtant, tu as relâché ton amour du début. On croirait entendre la plainte d'un amoureux, tu ne m'aimes plus autant. Cela rappelle, s'il est permis de faire cet anthropomorphisme, la fable de La Fontaine, Les deux amis, où on voit deux vrais amis vivaient au Monomotapa. Inutile de vous dire, ce Monomotapa est une région imaginaire qui indique bien que les vrais amis sont plutôt rares. Et alors l'un d'amis réveille l'autre en pleine nuit. Celui qui est réveillé se va, mais tu as besoin de quelque chose, je vais immédiatement vous le donner, je vais aller chercher ou de la nourriture ou des armes, que vous arrive-t-il? Et l'ami, qui l'important si on veut dire, dit simplement, vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. Rien que pour ce rêve où il a vu son ami dans la peine, il s'est précipité pour voir ce qui se passait. Donc on voit toute cette histoire de faire le premier amour. Tout Dieu voudrait que nous soyons toujours attachés à lui, comme un amoureux vis-à-vis de son amoureuse. Que son amoureuse n'arrête pas de le regarder. Qu'en toute chose, comme le disait Saint Paul, que nous fassions tout en toute chose pour l'amour de Dieu. On pense à Guy de Larigaudy qui disait qu'il est aussi bien, plutôt que de dire son chapelet, d'éplucher des pommes de terre pour l'amour du bon Dieu. Que la présence de Dieu soit toujours présente parmi nous. C'est là l'amour véritable. Donc on voit que c'est tout un amour, tout de délicatesse qui voudrait que nous soyons présents envers Dieu. Que nous jetions un petit peu loin la routine, ah oui, il faut encore faire ça, zut, enfin, je le fais, mais vivement que ce soit terminé. Non, il faudrait que l'amour de Dieu soit présent dans chaque chose parmi nous. Quelle délicatesse remarquable. Se relâcher de son premier amour, c'est pourtant bien fréquent. Qui ne s'est senti le cœur brûlant comme celui des pèlerins d'Emmaüs, un jour comme celui de sa confirmation, de ses fiançailles ou autre, Et puis, quelque temps d'après, on constate mélancoliquement que la routine a fait son œuvre. Ce sentiment est d'autant plus traître qu'il faut bien se garder de confondre l'intensité d'un amour véritable avec un émoi sensible. Les grands mystiques ont maintes fois témoigné de l'abandon apparent dans lequel ils se trouvaient au plus profond de leur nuit. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'a-t-elle pas affirmé avoir mangé le pain noir des athées pendant plusieurs années, tout en reconnaissant avoir progressé dans l'amour de Dieu? Et dernièrement, Mère Teresa a dit que aussi elle a vécu comme dans une atmosphère d'athéisme. Ce que certains journalistes ignorants, pardonnez-moi ce pléonasme, ont dit que Mère Teresa n'avait pas la foi. C'est pas du tout ça, c'est tout le contraire. Si nous essayons maintenant de comparer au reste, on pourrait dire que le don du Saint-Esprit correspondant à l'église d'Éphèse que nous demandons est le don de piété, qui est défini ainsi dans un vieux missel. Le don de piété met en notre âme l'inclination et la facilité à honorer Dieu comme notre Père et avoir en lui une confiance solide. La béatitude, puisqu'il y a sept églises, il y a sept béatitudes, correspondant est celle des doux qui posséderont la terre promise, précisons parfois, une terre apaisée par l'endurance de ceux qui ont supporté bien des choses sans se décourager. En conclusion de sa correction, le Christ se dit « Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. » C'est magnifique. Parce que l'arbre de la connaissance, il a été volé en quelque sorte par Adam et Ève qui l'ont mangé sans la permission de Dieu. Et là, Dieu nous rachète complètement, nous pardonne tout, et en complément, nous donne le deuxième fruit remarquable du jardin d'Éden, l'arbre de vie. Autrement dit, c'est vraiment l'accomplissement total de l'amour de Dieu. Le péché capital, semble bien être celui de la gourmandise, qui nous attire hors des chemins que l'on a décidé de fréquenter. La gourmandise fait passer le plaisir immédiat avant le profond de plaisir. Le plaisir que l'on prend à la délectation des choses d'ici-bas n'est pas mauvais. Lorsque le Christ a changé le vin des noces de Cana, le jour des noces de Cana, c'était du meilleur vin. Mais il fallait par-dessus tout voir le royaume de Dieu. C'est le fait de faire passer la délectation avant l'amour de Dieu qui est le péché capital. L'opposition, on pourrait la chercher dans Freud. Dans Freud qui s'est attaqué à la racine même de l'amour en faisant au mieux le déguisement de nos refoulements. Le réalisme pour Freud, c'est de tuer le père et d'avilir la mère, de trouver son accomplissement dans l'asservissement des autres. J'ai entendu cela dernièrement une femme dont j'ai oublié le nom, qui n'a aucune importance, qui faisait tout pour tuer la maternité, disant que l'allaitement était à proscrire, c'était quelque chose d'épouvantable. L'enfant est devenu un objet, un petit peu comme un animal domestique, qu'on peut abandonner quand ça nous embête, qu'on l'on peut prendre par plaisir, par envie. Tout ça, c'est complètement contre la racine même de l'amour de Dieu entre nous. Et être libre pour eux, c'est ne plus rien devoir à personne. C'est une folie, c'est un crime, car le repli pour soi-même a pour résultat final l'incarcération dans la plus impitoyable des prisons, soi-même. Dans le fond, l'enfer est une gigantesque bouderie, on ne pense plus qu'à soi, on est replié sur soi-même, on ne peut plus rien faire. Mais Éphèse, la première, la fille aînée des églises, doit donner l'exemple. Il en est de même des chrétiens pratiquants. Dans un de ses sermons, un prêtre a dit « Vous êtes exigeant envers vos prêtres, et vous avez raison ». Mais sachez que les non-chrétiens ne le sont pas moins envers vous, et ils ont raison eux aussi. Combien de fois n'entend-on pas cette réflexion ? Il a beau s'afficher pratiquement y aller à la messe, il n'est pas meilleur que les autres. Nous avons, nous, le devoir non seulement de ne pas avoir honte de notre foi, mais d'agir conformément à l'amour dont nous nous donnons les témoins. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il faut sans cesse progresser dans cet amour et dans toute négligence volontaire dans cette ascension est une faute. Retenir la correction à l'église d'Éphèse, c'est vivre dans la prière constante, quoi que vous fassiez, a dit saint Paul, que ce soit à la gloire de Dieu. Les guides de cet amour, qui, comme leurs collègues de haute montagne, nous soutiennent dans l'escalade de ces sommets, sont naturellement les mystiques. Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Jean lui-même. Les prières pour rester fidèles dans cet amour, dans cette ascension, sont évidemment l'acte de charité et toutes les variations autour de l'abandon à l'amour infini, par exemple la Dorothée. Dès l'Ancien Testament, l'Antique des Cantiques, le Cantique des Cantiques est une fameuse méditation. Peut-être en aurons-nous un jour l'occasion de le lire ensemble. Voilà, la prochaine fois ce sera l'église de Smyrne. Il se peut qu'il y ait un petit peu de retard car j'ai un mois de juin un petit peu agité. Je vous en présente davantage mes excuses. Je vous souhaite une bonne Pentecôte et à bientôt, j'espère.